J'ai là un autre dramaturge qui fut très célèbre en son siècle, Desmarets de Saint-Sorlin, académicien français, auteur de tragédies, de poésie, de textes polémiques, grand ennemi de Boileau, auteur d'une excellente comédie, jouée à l'Hôtel de Bourgogne, Les Visionnaires. Les visionnaires, c'est-à-dire les gens qui ont des visions, les chimériques, hein, pas les mystiques, les chimériques. Cette pièce fut jouée assez souvent par Molière, elle était son répertoire, elle fut même jouée devant le roi. Alors, il faudrait que je vous lusse la pièce tout entière, mais je ne veux pas abuser de vous. Elle est très drôle. Évidemment, aucun sens moral ne s'en dégage. Tous les personnages de cette pièce sont fous. Vous la trouvez, Théâtre du XVIIe siècle, Bibliothèque de la Pléiade, tome 2. Elle a été très bien sélectionnée, très bien, justement choisie. Vous avez un père, un malheureux père qui a trois filles. C'est déjà beaucoup, n'est-ce pas, pour le malheur d'un homme. Mais ce père a le ridicule de dire oui à tous les jeunes gens qui se présentent pour être des gendres. Et il oublie qu'il a dit oui quand un successeur se présente. Il dit oui à tout le monde, d'où évidemment des quiproquos. Et les filles sont mécontentes de se voir promises à Pierre, Paul, Jacques et Jean indistinctement. C'est la chimère du père. Il a trois filles. Les trois filles sont toutes les trois timbrées. L'une ne veut épouser que Alexandre le Grand. Et elle est persuadée qu'il est vivant, qu'il n'est pas mort, malgré les ouvrages des historiens. L'autre ne veut dans sa vie que du théâtre. Et elle aimerait bien épouser un héros de théâtre, à défaut un comédien. Sinon, passer toute sa vie dans des théâtres. Mais en cours de pièce, elle va mesurer que si elle se marie, elle risque d'avoir des enfants, et enceinte, on ne saurait aller au théâtre. Donc elle renonce à toute idée de mariage. Elle va rester, n'est-ce pas, amoureuse chimérique des gens du théâtre. La troisième, que Molière va imiter dans sa Bélise des femmes savantes, la troisième sœur se croit irrésistiblement belle. Elle l'est peut-être. Mais elle ne veut se lier à aucun de ses soupirants, car, se dit-elle, si je tisse un amour avec lui, mes autres soupirants vont de désespoir se suicider. Je ne veux pas être homicide, donc je ne dis oui à aucun soupirant. Bon, donc elle est mal partie pour le mariage. Donc vous avez ces trois filles. Et les soupirants qui se présentent sont tous des extravagants. Alors vous avez un bravache, un matamor, un capitaine Artabaz, qui se croit le bourreau des cœurs et un foudre de guerre, qui en réalité a peur de tout et est inapte aux choses de l'amour. Vous avez plus intéressant un poète extravagant qui tout d'un coup sur scène est saisi d'enthousiasme poétique. Il trépigne. Il est vrai d'ailleurs qu'il mâche des feuilles de laurier, la plante d'Apollon. Donc il est saisi sur scène de convulsion et se met à cracher des vers. Et ces vers ont dû beaucoup faire rire au XVIIe siècle parce que ce n'est pas du tout au goût du temps, c'est encore l'esthétique de Ronsard. Donc vous avez un poète anachronique et saisi par l'esprit prophétique, poétique, qui gesticule sur scène. Évidemment, il fait peur au capitaine. Il n'a jamais rencontré, n'est-ce pas, un tel personnage. Vous en avez un autre, Philidan, qui est amoureux, mais il est amoureux surtout pas de quelqu'un, il est amoureux de l'amour. Et aux filles en chair et en os, il préfère les personnages de la littérature et les filles imaginaires. Il est un peu comme le sera le chérubin de Beaumarchais, une fille, une femme, une femme, une fille. Ah, que ces noms sont doux, qu'ils sont intéressants. Bon. Et chérubin tombe amoureux absolument de tout le monde, hein, de la comtesse, de Suzanne et de Marceline, qui pourtant est sa grand-mère. Et puis il y a Barberine aussi. Bon. Donc vous avez un personnage naïvement amoureux de femmes imaginaires. Alors il suffit que le poète fasse le portrait ridicule d'une femme qui évidemment a des yeux d'azur, des lèvres de corail, un saint d'ivoire, etc., pour qu'il s'exclame « qu'elle est belle, je suis amoureux, où est-elle ?» Et dès qu'on le met face à une femme réelle, il décampe. Vous avez, intéressante aussi, Phalante. Alors Phalante est quelqu'un, c'est un très beau parti, il est richissime. Mais il n'est riche qu'en imagination et surtout qu'en héritage. Et il décrit une admirable propriété dont il espérait hériter, et rien que la description lui vaudrait d'être pris comme gendre tout de suite par le père, qui est très séduit, mais cette propriété, il n'en héritera que s'il commence par mourir ses 8 frères et sœurs plus âgés que lui. Son père est le 7e et le dernier, il faut que les 6 oncles qui disparaissent, etc., etc. Et c'est très ingénieusement ménagé. Il décrit, comme s'il en était le propriétaire, cette propriété qui n'est autre que le château de Richelieu, que Richelieu se faisait construire à la ville de Richelieu. Des Marais était une créature de Richelieu, donc il flatte le fondateur de l'Académie française et son maître. Et la versification. Alors, inutile de vous dire, n'est-ce pas, qu'aucun mariage ne se conclura jamais. La pièce est une pièce non conforme aux normes aristotéliciennes, puisqu'il n'y a pas d'action. Il n'y a qu'une action égale zéro. Et vous avez des sketchs. Voilà le début du discours du riche en héritage. C'est un lieu de plaisir, séjour de mes aïeux. À mon gré le plus beau qui soit dessous les cieux. Si vous le désirez, je vous le vais décrire. » Et le père dit « Vous me ferez plaisir, c'est ce que je désire. » Et il se lance. « Ce lieu se peut nommer séjour des voluptés, où l'art et la nature étalent leur beauté. On rencontre à l'abord une longue avenue d'arbres à 4 rangs qui voisinent la nue. De près des deux côtés font voir 100 000 fleurs qui par leur tapis de 100 vives couleurs et 100 petits ruisseaux coulent d'un doux murmure qui d'un œil plus riant font briller la verdure. Le père, l'abord est agréable. De loin, on aperçoit un portail magnifique, etc., etc. Et vous avez toute la description qui faite avec aplomb et talent. À l'écouter, on s'imagine qu'il est propriétaire de tout cela. Et il n'en est rien. Cette pièce était une pièce faite pour simplement divertir, flatter le maître, divertir. Laissons le théâtre. Du côté de la littérature poétique. Alors là encore, je me suis censuré, parce qu'il y a beaucoup de poètes indécents en ce siècle. Je vous soumets ce poème de Pierre de Faucheron, sieur de Montgaillard, qui est paru en 1606, pour vous donner une idée de la virtuosité dans l'insulte de poètes satiriques. C'est un topos de la poésie satirique du temps d'Henri IV et de Louis XIII. On se moque des vieilles femmes, fausses dévotes, et elles ont un passé, n'est-ce pas, qui dément leur vieille dévotion actuelle, ou bien de vieilles femmes habillées en vieilles dévotes et en réalité aussi lubriques qu'elles le furent toujours. Alors voilà des imprécations contre une vieille. Je suis prêt à photocopier ce texte et à vous l'offrir si vous avez une inimitié à poursuivre avec quelques vieillardes. Écoutez, vieille AA, vieille OU. Vieille chouette, vieille hibou, vieille grimace de marotte, vieille gibecière de juif, vieux chandelier noirci de suif, vieille robe pleine de crottes, vieille guisarme, c'est une pertuisane, vieille guisarme de sergent, vieille pantoufle de régent, un régent c'est un pion dans un collège, vieux rouet mangé de la rouille, vieille arquebuse de forêt, vieux baril de harengs saurés, vieille revendeuse d'andouille, vieille barbe de vérolée, vieille trogne au cul pelé, vieille chaudière à cuir tripe, vieille marchande d'almanach, vieille tripière, vieille cabas, vieille receleuse de nippes, vieille serpentine d'amour, vieille coratière de courrière, un coratière, vieille étrille, tout édentée, vieille porte-mal du temps, vieille dépouille de serpent, vieille carrosse démontée, vieille marmite de couvent, vieille bourse pleine de vent, vieille borgne, vieille tortue, vieille couane de lard puné, vieille qui meurt avec le nez, vieille de qui le regardes-tu, vieille grille, vieux chaudron, vieille mule, vieux chaperon, vieille calotte de nourrice, vieille mule de médecin, vieux traquenard plein de farcins, vieille braguette de Suisse, vieille pique de râtelier, vieille braie, les culottes, de cordelier, de franciscain, vieille moustache d'empirique, vieille empoisonneuse d'enfant, vieille morve de 10 ans, vieille moutarde de boutique, vieille médaille de la nuit, vieille idole à qui l'œil reluit, vieille graisse à oindre charrette, vieille araigne filant le soir, vieille croûte de biscuit noir, vieille emmanchure de raquette, vieille poison de scorpion, vieille forêt de morpion, vieille chauve, vieille ridée, vieille crieuse de balai, vieille jument morte au relais, vieille monture de Médée, vieille sorcière aux blonds cheveux, vieille breneuse au cul foireux, vieille charbonnière accroupie, vieille lanterne d'oublieux, vieille onguent de vieux triaclun, chiffonnier, vieille avaleuse de roupies, vieille faite en dépit du sort, vieille qui fait peur à la mort, vieille galeuse, horrible et blême, vieille qui dort les yeux ouverts, vieille peste de l'univers, vieille image de l'enfer même, les chiens, les tigres et les loups, les cirons, les teignes, les poux, les punaises, les vers, les puces, les chauves-souris et les chats, les sauterelles et les rats, te puissent ronger les prépuces. Le prépuce désignait les parties sexuelles, en général, des femmes notamment. Voilà, voyez cette verve dans ces imprécations contre une vieillarde. Voilà de quoi la poésie satirique était capable. Poète plus connu que le Sieur de Montgaillard, bien sûr, le poète Saint-Amand. Alors j'ai l'embarras du choix. Ce sont des pièces très gaies et imprévues, puisque en joli octosyllabe, ou aussi en alexandrin, il évoque des réalités de la vie quotidienne qui trouvaient rarement leur place dans la poésie. C'est de la poésie familière. Il a évoqué, je n'ai pas le texte, un fromage. Il y a un poème tout entier consacré à la fourme d'Ambert, qui n'est bonne que quasi décomposée. Il faut que, n'est-ce pas, presque que les vers y paraissent. Alors, c'est un poème odorant qui vous met en appétit. Je suis venu avec un autre poème très connu. Il est exquis dans sa gratuité. C'est un poème plein de bonne humeur et de grâce. Il a consacré un poème au melon. Il était surnommé dans les cabarets parisiens le Gros, Saint-Amand. C'était un protestant qui s'était converti au catholicisme. Donc il avait peut-être, n'est-ce pas, dans ses débauches, expié une certaine austérité huguenote de sa jeunesse. Mais il a composé une épopée chrétienne remarquable, un poème sur Moïse, à mon gré de qualité. Le melon. Quelle odeur songe en cette chambre ? Quel doux parfum de musc et d'ambre me vient le cerveau réjouir et tout le cœur épanouir ? La Fontaine l'aimait beaucoup. Ah bon Dieu, j'en tombe en extase. Ces belles fleurs qui dans ce vase parlent le haut de ce buffet feraient-elles bien cet effet ? A-t-on brûlé de la pastille ? N'est-ce point ce vin qui pétille dans ce cristal que l'art humain a fait pour couronner la main, et d'où sort, quand on en veut boire, un air de framboise à la gloire du bon terroir qu'il a porté pour notre éternelle santé. Non, ce n'est rien d'entre ces choses, mon pensée que tu me proposes. Qu'est-ce donc ? Je l'ai découvert dans ce panier rempli de verre. C'est un melon, où la nature, par une admirable structure, a voulu graver alentour 1000 plaisants chiffres d'amour pour claire marque à tout le monde que d'une amitié sans seconde elle chérit ce doux manger et que d'un souci ménager, travaillant au bien de la terre, dans ce beau fruit seul elle enserre toutes les aimables vertus dont les autres sont revêtus. Baillez-le moi, je vous en prie, que j'en commette idolâtrie. Oh, quelle odeur ! Qu'il est pesant et qu'il me charme en le baisant. Page, un couteau que je l'entame, mais qu'auparavant on réclame, par des soins aux devoirs instruits, pomone qui préside aux fruits, afin qu'au goût il se rencontre aussi bon qu'il a belle montre, et qu'on ne trouve point en lui le défaut des gens d'aujourd'hui. Notre prière est exaucée, elle a reconnu ma pensée, c'en est fait, le voilà coupé, et mon espoir n'est point trompé. Ô Dieu, que l'éclat qu'il me lance m'en confirme bien l'excellence. Qui vit jamais un si beau teint? D'un jaune sanguin il se peint. Il est massif jusque au centre, il a peu de grains dans le ventre, et ce peu-là, je pense encore que ce soit autant de grains d'or. Il est sec, son écorce est mince, bref, c'est un vrai manger de prince. Mais bien que je ne le sois pas, j'en ferai pourtant un repas. Ah, soutenez-moi, je me pâme. Ce morceau me chatouille l'âme. Il rend une douce liqueur qui me va confire le cœur. Mon appétit se rassasie de pure et nouvelle ambroisie, et mes sens, par le goût séduit, au nombre d'un, sont tous réduits. Non, le coco, fruit délectable, qui lui tout seul fournit la table, de tous les mets que le désir puisse imaginer et choisir, ni les baisers d'une maîtresse quand elle-même nous caresse, ni ce qu'on tire des roseaux que Crète nourrit dans ses eaux, ni le cher abricot que j'aime, ni la fraise avec la crème, ni la manne qui vient du ciel, ni le pur aliment du miel, ni la poire de Tours sacrée, ni la verte figue sucrée, ni la prune au jus délicat, ni même le raisin muscat. Parole pour moi bien étrange, ne sont qu'amertume et que fange au prix de ce melon divin, honneur du climat angevin. Que dis-je d'Anjou? Je m'abuse. C'est un fruit du cru de Mamuse, un fruit en Parnasse élevé, de l'eau d'Hippocrène abreuvé, mont qui, pour les dieux seuls, rapporte d'excellents fruits de cette sorte pour être proche du soleil, d'où leur vient ce goût non pareil, car il ne serait pas croyable qu'un lieu commun, quoique agréable, eût pu produire ainsi pour nous rien de si bon ni de si doux. Apologie du melon. Bon. Il y a beaucoup de finesse, beaucoup de verve, d'abondance, d'imagination. Saint-Amand. Du côté des romanciers, il est des endroits très savoureux, pas du côté du roman héroïque, bien sûr, ni forcément du côté du roman historique, mais chez les auteurs de romans à rire, de romans à rire, de romans comiques. Les agréatifs connaissent bien Scarron. Il y a chez Scarron des plaisanteries à base de peau de chambre assez savoureuses. Bon, mais ces textes leur sont connus. En deçà de Scarron, sous Louis XIII, il y avait Charles Sorel, qui a narré abondamment la vie d'un personnage paradoxal provoquant Francion. Alors Francion est un personnage qui a l'intérêt de nous raconter sa vie en commençant par sa petite jeunesse. L'enfance n'intéresse pas beaucoup nos ancêtres au XVIIe siècle. C'est dès qu'on entre dans la vie adulte que les choses prennent relief et intérêt. Ce n'est pas le cas dans le roman comique de Charles Sorel. Alors Francion narre ses premières années et ses séjours au collège. Il se trouve sur les flancs de la montagne Sainte-Geneviève, rue Saint-Jacques, dans une maison qu'il ravage à force de mauvaises plaisanteries. Voilà à quoi jouaient les collégiens au XVIIe siècle. On allait prendre dans des latrines du collège, des étrons, et on s'amusait par les fenêtres à bombarder les passants. Bon, ça annonce mai 68, à peu près. On joue du théâtre, mêlés, professeurs, régents, c'est-à-dire les pions et les élèves. Et évidemment, sur scène, l'occasion est belle, n'est-ce pas, de répondre aux pions autre chose que la réplique à laquelle il s'attend, par exemple. Par la suite, Francion traverse divers milieux, et je songe à une... Comme c'est un aristocrate libertin, très imbu de lui-même et très méprisant envers le reste de l'humanité, il aime bien humilier autrui. Alors vous avez un épisode, je ne suis pas venu... Dans les détails, Philippe Nemo eut froncé les sourcils. Bon. On est à la campagne, Francion est en compagnie d'un gentilhomme, et une noce paysanne a lieu. Aussitôt, comme Panurge chez Rabelais, comme des bons farceurs, ce noble et Francion décide de semer la catastrophe dans la noce. Il se déguise en musicien ambulant pour s'adjoindre aux paysans qui sont en train de préparer la noce. Et ils prétendent s'y connaître en cuisine. Donc on les charge de cuisiner quelques plats de la noce paysanne, et notamment du riz. On cuisinait du riz qui poussait en Camargue. Il y avait un plat de riz un peu sucré pour tous les mariages, sucré et safrané. On appelait ça le riz jaune, on héritait de la tradition romaine, sans le savoir, qui voulait que les jeunes mariés fussent d'orange vêtus, d'où les couronnes d'oranger. Alors ce riz jaune, Francion et son complice glissent dedans une poudre laxative. Bon. On dévore les victuailles. Alors la noblesse ne se mêle pas à la noce campagnarde. Des balcons du château, elle assiste au bal qu'elle donne à sa paysannerie pour les noces qui ont lieu. On a déjeuné et l'on commence à danser. Mais la poudre laxative fait son effet. Quand vous êtes au milieu d'un cercle de danseurs, héros de la fête, vous ne pouvez pas disparaître discrètement. Il faut achever la danse. Par conséquent, se produit ce à quoi vous vous attendez, et toute la noce termine, n'est-ce pas, en dansant dans les matières. Alors bien sûr, il y a des toilettes, mais elles sont prises d'assaut. Et Francion fait exprès de s'y enfermer, prétextant des difficultés de ventre, pour que les malheureux à la porte... je passe. Vous trouvez des péripéties bouffonnes, burlesques, de cette sorte, du côté du roman comique. Du côté de la poésie, alors j'évoquais le roman comique de Scarron, il fut aussi poète, et ce paralytique, dont la vie n'était pas drôle, fut capable de vers très spirituels. Voilà comment il l'évoque. Il était cloué sur un fauteuil de fer et bien sûr traîné en litière, il ne pouvait plus marcher, à cause, semble-t-il, d'une tuberculose osseuse. Voilà comment il décrit son voyage depuis le Marais jusqu'au faubourg Saint-Germain. « Parbleu, bon, je vais par les rues, mais je n'y vais pas de mon chef, ni de mes pieds qui, par mes chefs, sont partis très mal autrus. Je marche sur pieds empruntés. Ceux dont mes membres sont portés sont à deux puissants porte-chaises que je loue presque un écu. Ah, que les maroufles sont aises au prix de moi qui suis toujours dessus le cul. Non que s'asseoir sur le derrière soit laide situation, car parmi toute nation on s'assied en cette manière. Aussi ne dis-je que s'asseoir soit une chose laide à voir, mais de dire qu'elle soit bonne, c'est ce que je ne dirai point avec la douleur que me donne mon derrière pointu qui n'a plus d'embonpoint. Revenez, mes fesses perdues, revenez me donner un cul. En vous perdant, j'ai tout perdu, hélas, qu'êtes-vous devenu? Appui de mes membres perclus, cul que j'use et que je n'ai plus. Étant une pièce si rare, que l'on devrait vous tenir cher, ah, que la coutume est barbare de porter vêtements afin de vous cacher. Que de la chaise qui me porte, j'aperçois de gens cheminer, hélas, que me faut-il donner pour pouvoir marcher de la sorte? Quiconque me fera marcher, sache que je n'ai rien de cher comme mes bourrelets de laine. Je les lui donne de bon cœur, de carmemain, de papier plein, et serai dessus tout son humble serviteur. Mais je sens ma chaise arrêtée, je pourrais bien être arrivé. Et je n'aurais pas achevé cette pièce un peu trop hâtée. Achevons au moins ce dizain. Nous ferons le reste demain. Porteur, on va vous satisfaire. Taisez-vous donc. Vous m'empêchez, vous troublez toute mon affaire, mais ne vous taisez plus. Mes vers sont dépêchés. Ça y est, le poème est fait. Voyez ce paralytique qui garde sa bonne humeur. Bon, poésie, alors, gaie. Je la trouve très gaie, parce que c'est l'œuvre d'un virtuose. Toujours de Scarron, ce paralytique. Il était lié avec le poète... Ami de voiture, il était lié avec tout le monde. On lui rendait visite. Sa conversation était brillante et piquante. Il était lié avec le poète Sarrazin. auteur d'un très joli poème où une femme qu'il courtise est comparée du début jusqu'à la fin à une petite souris grise. Voilà une épître, une lettre de Scarron à Sarrazin, écrite entièrement en vers de 3 syllabes. Bon, même ceux d'entre vous qui n'êtes pas poète, oh Dieu ne plaise, vous verrez que ce n'est pas rien. Sarrazin, mon voisin, cher ami, qu'à demi je ne vois, dont ma foi j'ai des pites un petit. N'es-tu pas Barabbas, Basiris, Phalaris, Ganelon le Félon, de savoir mon manoir peu distant, et pourtant de ne pas de ton pas ou de ceux de tes deux chevaux gris mal nourris y venir réjouir par des dits et maudits un pauvre très maigré au col tort dont le corps tout tortu, tout bossu, suranné, décharné est réduit jour et nuit à souffrir sans guérir des tourments véhéments. Bon. Si Dieu veut qu'il tout peut, dès demain, malsain main, c'est une forme de lèpre, malsain main sur ta peau, bien et beau s'étendra et fera tout ton cuir convertir en farcin, l'or malsain et pourri, bien mari tu seras, et verras si j'ai tort d'être fort en émoi contre toi, mais pourtant repentant si tu viens et te tiens un moment seulement avec nous, mon courroux finira, etc. Il est terminé par autre chose que 3 syllabes. Bon, là encore, n'est-ce pas, c'est un exercice purement formel, ce n'est pas de la grande poésie, mais il y a une élégance, une gaieté.